Europe Midi, Sébastien Guyot.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1, il est midi et demi. La fin du suspense. On sait qui sera vacciné en premier contre le Covid. Ce seront les personnes âgées résidant en EHPAD. Le détail dans un instant avec Anne Le Gall, notre invité à 12h45, Jean-Daniel Lelièvre, membre de la Haute Autorité de Santé. Fin du suspense également pour le Goncourt, le prix 2020 dévoilé d'une minute à l'autre. Nicolas Carreau viendra en studio nous donner son nom dans quelques instants. Branle-bas de combat à la tête de l'État pour mettre fin à la crise politique liée à l'article 24 de la loi Sécurité globale. Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti, Jean Castex, en ce moment même à l'Élysée. C'est dans ce contexte que quatre policiers accusés d'avoir passé à tabac Michel Zecler ont été mis en examen la nuit dernière. Deux d'entre eux sont derrière les barreaux. Et puis une rave party organisée samedi soir en toute illégalité à Saint-Marcellin en Isère. Le propriétaire des lieux a porté plainte. Environ la moitié des 200 fêtards ont été verbalisés.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Qui sera vacciné en premier contre le Covid? La Haute Autorité de Santé, organisme indépendant, a donc donné une première réponse ce matin. Il y aura 5 phases. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Vous êtes la spécialiste santé d'Europe 1. Anne, la première phase va donc concerner les EHPAD.
Exactement, dans la mesure où il n'y aura dans un premier temps qu'un nombre de doses limitées de vaccins. Pour la Haute Autorité de Santé, le fil rouge, c'est de vacciner en priorité les personnes les plus à risque de faire des formes graves. Or, les résidents des EHPAD cumulent effectivement le double risque d'être âgés, donc fragiles, et d'être particulièrement exposés au virus, car ces hébergements collectifs peuvent être le foyer de clusters. Les chiffres l'attestent, un tiers des décès dus au Covid sont survenus dans des maisons de retraite. Par ailleurs, la HAS estime que tous les personnels qui travaillent dans ces EHPAD et qui ont un facteur de risque du fait de leur âge ou d'un problème de santé doivent aussi se faire vacciner en priorité. Au total, cela fait donc un peu moins d'un million de Français qui devraient être concernés par cette première vague de vaccination, normalement en janvier, en tout cas dès qu'un premier vaccin obtiendra une autorisation de mise sur le marché.
Ça, c'est donc pour la première vague. Qui sera vaccinée, Anne, lors des 4 phases suivantes?
Alors, les phases suivantes interviendront au fur et à mesure de la disponibilité des doses de vaccins. Et la HAS recommande de vacciner ensuite, donc en phase 2, les plus de 75 ans et les personnes âgées de 65 à 75 ans qui ont un facteur de risque, comme notamment l'obésité, le diabète, un cancer ou une maladie respiratoire, et toujours les personnels de santé. En phase 3, ce serait l'ensemble des personnes âgées de plus de 50 ans. En phase 4, ce serait toutes les personnes exposées au virus dans leur métier ou des personnes à risque, quel que soit leur âge. La phase 5 pour les personnes majeures en bonne santé n'interviendrait qu'après l'été, toujours sur la base du volontariat. Et évidemment, tout ceci est susceptible d'évoluer en fonction des caractéristiques des vaccins qui arriveront sur le marché, car à ce stade, on ne connaît pas encore leur durée de protection, ni s'ils peuvent limiter ou pas la transmission du virus.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, merci pour ces explications. Je vous rappelle que Jean-Daniel Lelièvre, membre de la Haute Autorité de Santé, sera notre invité dans la deuxième partie de cette édition. C'est une affaire de pédocriminalité sans précédent en France. Joël Lesquarnec, ancien chirurgien, accusé de plus de 300 viols et agressions sexuelles sur mineurs. Il comparaît depuis ce matin devant les assises de Saintes pour seulement 4 cas. C'est la première partie de cette affaire hors norme. Le procès se déroulera à huis clos jusqu'à jeudi. Le passage à tabac de Michel Zecler. 4 policiers ont été mis en examen la nuit dernière. Guillaume Biais, 2 d'entre eux ont été écroués.
Oui, il s'agit du brigadier de 44 ans, celui que l'on voit sur la vidéo, radio à la main, bloquer la porte au jeune qui essaye de prêter main forte, lui aussi qui donne plusieurs coups à la victime. C'est le plus expérimenté du groupe, 20 ans de police et des états de service impeccables. L'autre policier incarcéré, c'est le plus jeune, un gardien de la paix de 23 ans, mis en examen pour violence et pour faux en écriture publique. C'est lui qui a rédigé le procès verbal d'interpellation contesté. 2 policiers jusqu'ici sans histoire, qui sont en prison sous la pression, se demande Thierry Clair, le secrétaire général adjoint de l'UNSA Police.
C'est beaucoup d'émotions aujourd'hui, vous le pensez bien, dans les services. Si les images ont choqué l'ensemble de nos collègues, cette décision est choquante aussi parce que pour des cas de primo-délinquants, la détention provisoire n'est jamais requise. Là, en l'occurrence, pour ces collègues qui ont un très bon dossier administratif, cette détention, effectivement, crée de l'émotion dans les services. C'est une réalité aujourd'hui.
Les 2 autres policiers mis en examen sont libres, sous contrôle judiciaire. Je rappelle qu'ils sont suspendus. L'un d'eux a 31 ans, très bien noté par sa hiérarchie. Aucun accroc dans son dossier. Le dernier a 35 ans. C'est lui, en renfort, qui a lancé la grenade lacrymogène dans le sas d'entrée du studio d'enregistrement.
Guillaume Biais, chef du service police-justice d'Europe 1. Je vous propose à présent d'écouter la réaction d'Afida El Ali. Elle est l'avocate de Michel Zecler.
Bien évidemment, on est plus que satisfait. Nous sommes aujourd'hui rassurés. C'est une belle réponse, ce placement en détention. Il le fallait pour lui, et puis j'ai envie de dire, il le fallait pour tous les citoyens français, qu'ils comprennent que lorsque l'on agit ainsi, on doit être sanctionné à la hauteur de la gravité de ce que l'on commet, quel que soit son statut.
Afida El Ali, l'avocate de Michel Zecler, jointe par Rémi Bossaron. Violence policière, article 24 de la loi Sécurité globale controversée. C'est donc dans ce contexte que Gérald Darmanin est interrogé ce soir à 18h15 par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Mais Adrien Beck, le ministre de l'Intérieur, est en ce moment même à l'Élysée. C'est le branle-bas de combat pour tenter de trouver une sortie de crise.
Oui, et Emmanuel Macron s'implique personnellement, réunion en cours avec notamment le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, les présidents de groupe de la majorité, volonté de ne pas laisser la crise s'enquister. C'était le sens aussi un peu plus tôt dans la matinée de la réunion entre le ministre de l'Intérieur et les députés LAREM de la Commission des lois qui ont formulé plusieurs propositions. Retrait pur et simple de l'article 24, nouvelle réécriture. Il est temps de bouger pour sortir de cette mauvaise passe, plaide un participants, députés d'un côté, ministres de l'autre, qui sont en fait tombés d'accord sur leur désaccord, puisque selon nos informations, Gérald Darmanin est resté inflexible, plaidant le statu quo. Son message, ce ne sont pas 40 000 manifestants qui doivent nous faire reculer. En clair, le ministre tient sa position auprès de la droite, de l'opinion, des syndicats policiers. Et on comprend aussi avec cette réunion en cours à l'Élysée que c'est maintenant Emmanuel Macron lui-même qui devra trancher. C'est dire l'importance qu'a pris ce sujet qui devient d'heure en heure un peu plus toxique pour la majorité.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Après un faux départ, le procès de Nicolas Sarkozy pour corruption reprend à 13h30 devant le tribunal correctionnel de Paris. Et puis autre procès, celui de l'incendie de la rue Mira à Paris qui avait fait 8 morts dont 2 enfants en 2015. Nous y reviendrons en détail dans le journal de 13h.
Europe Midi, Sébastien Guyot.
Dans un instant, la suite du journal. Le nom du prix Goncourt 2020, il vient tout juste d'être dévoilé. Fin du suspense dans un instant.
Europe Midi. Sébastien Guyot.
Pas de grand cérémonial au restaurant Drouhan à Paris comme chaque année. C'est en visioconférence que le nom du prix Goncourt a été annoncé. C'était il y a quelques minutes.
Le prix Goncourt 2020 a été attribué à Hervé Le Tellier pour l'anomalie chez Gallimard.
Hervé Le Tellier chez l'anomalie. Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Sébastien.
Ce n'est pas une surprise.
Non, c'était le favori. L'anomalie, son roman est à la fois hyper littéraire et très grand public. Or, l'Académie Goncourt, cette année, voulait favoriser un livre peut-être plus commercial pour aider les librairies, pour booster toutes les ventes. Et parmi les quatre finalistes, c'est vraiment celui qui est le plus grand public. Il raconte une histoire de science-fiction au rythme d'un feuilleton. Il joue aussi avec les styles littéraires. Chaque personnage correspond à un style. C'est l'histoire d'un vol Paris-New York qui se passe très mal. J'ai adoré ce bouquin, moi. On est en mars 2021. Turbulence impressionnante. Tout le monde commence à faire sa prière, même les athées. Et puis finalement, ça va. L'avion sort du cumulonimbus. Ça fera une belle anecdote à raconter. Trois mois plus tard, la tour de contrôle de New York identifie un vol Air France. C'est très étrange puisque c'est le même numéro de vol que l'avion de Mars, même équipage, même passager. En fait, il y a eu une duplication. C'est-à-dire que tous les passagers se retrouvent avec un double d'eux-mêmes sur la planète. Alors on suit 8 personnages confrontés à cette bizarrerie. C'est virtuose.
Merci Nicolas Carreau, spécialiste littéraire sur Europe 1. Vous revenez à 13h pour nous dévoiler le nom du prix Renaudot.
Le Renaudot, j'arrive.
Qui sera dévoilé donc à 12h50. L'égalité homme-femme dans les entreprises, victime collatérale de la crise du Covid. C'est ce que vous nous révélez, Élise Dangean sur Europe 1. La crise sanitaire a relégué au second plan les questions d'égalité professionnelle.
Oui, et c'est surtout le premier confinement qui a fait mal car aucune entreprise n'était prête. Dans les services RH, tous les projets hors Covid ont été stoppés net. Et si beaucoup d'entreprises affirment avoir désormais repris leur mission, on a bien 6 mois dans la vue, selon une chargée de ressources humaines d'un grand groupe bancaire. À cela s'ajoutent les recrutements gelés, les formations et audits annulés. Margot Théroux dirige le cabinet de conseil Heroes, spécialisé en égalité professionnelle. Et depuis le début de la crise, 2/3 de ces projets ont été reportés ou abandonnés par les entreprises avec qui elles travaillent.
J'ai littéralement un DRH qui m'a dit « Écoutez Margot, en fait en ce moment c'est juste pas possible. Nous au sein des entreprises, c'est marche ou crève et l'égalité professionnelle, c'est plus la priorité, puisqu'en fait aujourd'hui la première priorité c'est bien sûr de sauvegarder les emplois. Et c'est un argument que je comprends, mais que je comprends à court terme. Et là en fait j'ai peur que ça soit un peu aussi une fausse excuse pour les mauvais élèves, entre guillemets, pour se dédouaner en disant « Non mais attendez, il y a la crise sanitaire. »
Inquiétude partagée par l'Association nationale des DRH. Selon son vice-président, certaines entreprises pourraient même tenter de couper dans les budgets égalité salariale destinés à faire du rattrapage pour les femmes moins payées. Pour un bilan complet des effets de cette crise sur l'égalité professionnelle, il faudra attendre le prochain index publié par le ministère du Travail au printemps. L'exécutif qui n'exclut pas de resserrer la vis en cas de mauvais résultats.
Élise Dangean, les femmes mises à l'honneur au contraire par Joe Biden, le 46e président américain a dévoilé une équipe de communication 100% féminine. C'est une première dans l'histoire des États-Unis. Joe Biden qui, ça n'a rien à voir, s'est fait une entorse au pied en jouant avec son chien ce week-end. Ce week-end, vous avez peut-être profité en France de l'allègement des règles du confinement. 20 km, 3 heures, certains en ont profité un peu trop au goût des voisins et des policiers. À Saint-Marcelin, en Isère, 200 personnes se sont rassemblées lors d'une free party dans la nuit de samedi à dimanche. Et Jean-Luc Boujon, plus d'une centaine ont été verbalisées.
Oui, effectivement, au petit matin, une centaine de personnes sur les 200 présentes la nuit précédente ont reçu un PV pour non-respect du confinement et non-port du masque. Mais le mal était fait puisque la rave party avait déjà eu lieu durant plusieurs heures sur ce site d'une usine désaffectée en bordure de lotissement, en plein centre-ville de Saint-Marcelin. Les 200 toughers venus de toute la France et même de pays frontaliers étaient arrivés la veille au soir, au dernier moment. Impossible de prévoir l'endroit et surtout impossible pour les 50 gendarmes présents sur place d'intervenir car les toughers étaient préparés, explique le maire Raphaël Mosselin.
Eux, ils avaient barricadé le site. Les pompiers et puis les gendarmes ont reçu des cailloux parce qu'ils avaient barricadé l'accès. Il y a toute une stratégie. Hein. C'est pensé, c'est réfléchi. Ils cherchaient la confrontation en début de soirée. Moi, j'y étais jusqu'à 2h30 du matin. Il y avait un grand feu, un grand brasero, la fête techno à tue-tête.
Alors le maire qui, dans la nuit, a quand même tenté de dialoguer avec l'une des participantes.
C'était une personne qui avait 35 ans, qui venait pour faire la fête, qui estimait que c'était la liberté. Avant tout, c'était la liberté. Bon, j'ai essayé de raisonner, mais vous ne pouvez pas, ce n'est pas possible.
Et vous lui avez parlé du confinement, du Covid ?
Non, c'est faux. C'est les médias qui ont monté le confinement, le Covid. Enfin, c'est du hors-sol, hein.
Voilà, on a compris que personne n'avait de masque samedi soir et donc le risque de cluster géant dans les jours qui viennent n'est pas à écarter. Le recueil d'une centaine d'identités pour dresser les PV sera peut-être très utile dans très peu de temps.
Jean-Luc Boujon, correspondant d'Europe 1 dans la région Rhône-Alpes en direct de Lyon, merci. Et puis en Formule 1, Romain Grosjean, victime miraculée hein, après un accident spectaculaire hier au Grand Prix de Bahreïn, sera forfait pour l'avant-dernier du Grand Prix de la saison le week-end prochain. Brûlé aux mains, il devrait sortir de l'hôpital demain. Le temps, Anissa Dadi. Bonjour Anissa.
Bonjour Sébastien.
Après-midi hivernal avec 4 départements en vigilance orange.
Il s'agit des Ardennes, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Moselle. Alors vigilance orange, neige, verglas émise par Météo France. Pour ce soir, à partir de 18h, car nous attendons en fin de journée des petites pluies fines qui vont arriver sur le nord-est. L'ambiance est très froide en ce moment, du coup ça nous donne des pluies verglaçantes. Grande prudence hein, si vous devez prendre la route en fin de journée. Et puis en fin de nuit, c'est la neige qui va prendre le relais de la neige qui tombe en plaine. Elle ne tiendra quasiment pas, c'est au-dessus de 500 mètres vraiment que les sols seront blancs. Partout ailleurs cet après-midi, et bien sur la grande moitié nord, c'est un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Et puis sur la moitié sud, là, c'est du très grand soleil. Une journée parfaite d'automne pour la moitié sud, c'est-à-dire des températures un peu plus fraîches et un grand beau soleil sans aucun nuage. Attention, dans la vallée du Rhône, on a le Mistral qui se lève légèrement et qui va souffler jusqu'à 50 km/h. Les températures, je vous le disais, Sébastien, elles sont froides. Nous aurons seulement 2 degrés à Strasbourg cet après-midi, 3 à Nancy et à Metz, 4 à Saint-Étienne, 6 pour Clermont-Ferrand, 9 à Lille, 10 à Paris, 12 à Brest, 14 à Carcassonne. Dans le sud, ça reste agréable avec 16 degrés à Marseille et 18 la maximale pour Ajaccio.
Merci Anissa Dadi.
Europe Midi, Sébastien Guyot.
Dans un instant, le grand entretien avec Jean-Daniel Lelièvre, membre de la Haute Autorité de Santé. Qui seront les premiers vaccinés du Covid ? Où, quand, comment ? Il nous dira tout.